Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée « Regard sur l'actualité de la semaine ». Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste et membre de l'Union congolaise des femmes et des médias ICOFEM en sigle. Bonjour Madame Bernadette Kamango.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Maître Georges Kapiamba, lui, il est avocat, il est président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ en sigle. Bonjour Maître Georges Kapiamba.
Bonjour Guy, bonjour Madame Bernadette, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Anna Sylvestre, elle est journaliste au magazine Jeune Afrique, elle est spécialiste de l'Afrique. Bonjour Madame Anna Sylvestre.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Bernadette Kamango, elle est journaliste et membre de l'Union congolaise des femmes des médias. Maître Georges Kapiamba, avocat, il est président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ en sigle. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Anna Sylvestre, journaliste au magazine Jeune Afrique, elle est spécialiste de l'Afrique. Nous allons commencer cette émission par un commentaire sur les conditions carcérales en RDC. En vue justement de faire face à la problématique des conditions carcérales en RDC, la ministre de la Justice annonce avoir préconisé 3 grandes mesures dès son avènement à la tête de ses ministères. Ces mesures concernent le désengorgement des milliers carcéraux par la proposition des grâces présidentielles et la libération conditionnelle pour ceux qui en sont éligibles, la délocalisation d'anciennes prisons et la construction des nouvelles. Rose Mutombo répondait mardi dernier aux préoccupations de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale concernant de nombreuses plaintes enregistrées par les députés de la part de leurs électeurs sur la mauvaise administration de la justice congolaise. Madame Bernadette Kamango, cette question des conditions carcérales se pose avec acuité en RDC depuis plusieurs années. Des rapports ont été élaborés pour non seulement dénoncer cet état des choses, mais aussi faire des recommandations pour tenter d'améliorer la situation. Mais rien n'a changé. Au contraire, les conditions ne font qu'empirer. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Bon, merci d'abord de m'avoir invité à tous à cette émission. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Bon, on pourrait dire quelque part que c'est un manque de volonté d'abord de la part des personnes qui doivent justement s'occuper de cette question de la condition des prisonniers dans leur lieu d'habitation. Parce que qui construit les prisons? C'est le gouvernement, c'est pas la population. Alors, je pense que la première responsabilité revient d'abord, effectivement, au niveau du gouvernement, et puisque, en principe, une prison, c'est un centre qui devrait servir, bon, qui devrait vraiment servir à rééduquer une personne. Mais là, dans nos prisons, malheureusement, congolaises, que j'ai eu aussi l'opportunité de pouvoir visiter, que ce soit au niveau de l'Équateur, que ce soit au niveau de quelques autres provinces du pays. C'est des lieux où, qu'est-ce que je peux dire? Oui, il ne fait vraiment pas bon vivre. Et je crois que l'une des autres raisons, c'est que ces prisons ont été construites pratiquement à l'époque coloniale. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de politique ou bien, comme je le disais tout à l'heure, vraiment d'une volonté décisive et ferme de pouvoir rétablir les choses. Quand on part dans d'autres pays, particulièrement dans les pays en Europe, mais vous verrez quand vous entrez dans les prisons, même si des fois je suis certaines informations où on déplore les conditions des prisonniers en Occident, mais vous sentez d'abord que ce sont des centres de rééducation sociale de toutes ces personnes qui se sont un peu perdues en chemin. Et ces prisonniers, même dès qu'ils quittent la prison, ce sont des personnes qui sont capables d'être resocialisées au sein de leur société. Mais chez nous, nous avons l'impression que nos prisons sont plutôt des mouroirs. Et non seulement ça, quand on parle des conditions, il y a aussi le problème d'alimentation. Et ces derniers temps, on parle beaucoup d'évasion des prisonniers. Et ça, c'est ce qui est très dangereux, surtout avec la situation qui se passe à l'Est. Actuellement, on a assisté à des évasions des prisonniers, mais ces prisonniers, malheureusement, sont récupérés auprès de tous ces groupes armés dont nous déplorons la présence actuellement. Donc je pense que c'est d'abord au gouvernement de faire un gros effort par rapport à cette situation.
Merci. Maître Georges Kapiamba, la ministre d'État, ministre de la Justice, annonce des mesures, à savoir le désengorgement des milliers carcéraux par la proposition des grâces présidentielles et la libération conditionnelle pour ceux qui en sont éligibles, la délocalisation d'anciennes prisons et la construction des nouvelles prisons. Et à votre avis, ces mesures à elles seules peuvent-elles suffire pour améliorer les conditions des prisons en RDC?
Non, Guy, d'abord merci pour m'avoir fait participer à ce débat. Je crois que il est illusoire de penser qu'en appliquant seulement ces trois mesures qu'on puisse résoudre les problèmes des conditions infrahumaines dans lesquelles se trouvent les détenus et les prisonniers en République démocratique du Congo. Parce que, comme vous le savez, lors des états généraux de la justice que le gouvernement congolais avait organisé du 27 avril au 2 mai 2015, ces diagnostics sur l'état de délabrement très avancé de prisons et de maisons de détention avaient été déjà faits et un certain nombre de recommandations et d'engagement avait été dégagé. Et le gouvernement avait pris l'engagement en 2015 de mettre en place, de définir finalement la politique nationale sectorielle de l'administration pénitentiaire et des établissements qui doivent gérer les enfants en conflit avec la loi. Il devait à cette occasion prendre un certain nombre de mesures à caractère réglementaire, mais aussi saisir le Parlement avec un projet de loi afin d'actualiser le cadre légal qui organise aujourd'hui l'administration pénitentiaire. Donner des moyens, voter des moyens conséquents pour que ce secteur puisse connaître une impulsion et que les prisonniers, les détenus préventifs puissent être traités comme des personnes humaines et que la République démocratique du Congo puisse enfin se mettre en adéquation avec ses engagements internationaux en matière de conditions minimales des détenus. Mais rien n'est fait jusqu'à ce jour. C'est ce qui fait que nous connaissons par-ci par-là des évasions. Je peux vous dire qu'au niveau de la CAJ, nous avons dénombré depuis le début de l'année en cours jusqu'à ce jour, nous avons dénombré 14 évasions dans les prisons de la République démocratique du Congo. Et les causes de ces évasions, c'est principalement les mauvaises conditions de détention. Dans les mauvaises conditions, vous avez, comme Madame venait de le mentionner, d'abord, vous avez des structures d'accueil des prisons qui ne sont pas adaptées aujourd'hui au nombre de prisonniers qui sont là. Si vous prenez tout simplement deux exemples, je peux prendre deux exemples, la prison de Makala, qui est situé dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, une prison qui était construite à l'époque pour avoir au moins 1500 détenus, parce que c'était conçu comme une maison d'arrêt, pas une prison au sens où elle est transformée aujourd'hui en une structure devant recevoir des personnes condamnées et devant purger leur peine. Mais aujourd'hui, selon les décomptes, les chiffres que nous avons, nous sommes déjà la prison de Makala est à 9680 détenus mélangés aux prisonniers, c'est-à-dire aux condamnés, avec des enfants aussi en conflit avec la loi et certaines femmes qui sont condamnées ou en détention préventive.
Et donc, vous pensez que, vous voulez dire que, en plus des mesures qui ont été prises par la ministre de la Justice, il y a aussi un travail sur le plan normatif qui doit être fait.
Oui, déjà la définition et l'adoption d'une politique de gestion de l'administration pénitentiaire. Il faut qu'il y ait une politique qui doit définir des lignes directrices, qui doit dégager aussi les responsabilités de chaque autorité au niveau national qu'au niveau provincial. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de guerre entre les gouvernements centrales et les gouvernements provinciaux, parce que les gouvernements centrales considèrent que la gestion des prisons relève de la compétence concurrente entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Ce que les pouvoirs provinciaux n'acceptent pas, parce qu'ils considèrent que même si tel était le cas, à partir du moment où le pouvoir central ne leur donne pas les moyens en termes de rétrocession de 40% tels que prescrit par la Constitution, ces gouvernements se disent être dans l'impossibilité d'accomplir leur part des choses en ce qui concerne la gestion ou l'entretien des prisons ainsi que des prisonniers.
Merci.
Et donc, ça c'est très important. Mais je termine par un autre exemple. Là, j'ai voulu commencer par la capitale et je prends un dernier exemple d'une prison où il y a eu récemment une évasion. C'est dans la province de Tanganyika, à Kalemi. Une prison qui avait été construite pour 150 détenus, donc une maison d'arrêt, mais qui s'est retrouvée avec 1000 même plus de détenus et de condamnés. Avec comme conséquence, comme la gouverneure de la dite province l'a dit sur les antennes d'une des radios sœurs à la vôtre, que beaucoup de prisonniers meurent presque chaque jour à cause principalement de l'étouffement. Vous comprenez que la situation est plus que déroutante, ce
Merci.
Qui se passe dans nos prisons en République démocratique du Congo.
Merci Madame Anna Sylvestre. Au-delà de l'image que nous avons des prisons en Occident, il y a certainement des choses qui laissent à désirer dans ces différentes prisons. C'est comme quoi, par exemple, et qui doit être amélioré à votre avis?
Ah, je pense, bonjour à tous et merci également de m'avoir invité. La gravité de la situation n'est sans doute pas comparable, mais les problématiques sont les mêmes. Par exemple, en France, ici, le débat public pointe aussi beaucoup le problème de la surpopulation en prison. Alors, c'est pas forcément dans la même ampleur que à Makala, comme vient de le pointer fort à propos mon prédécesseur.
Mais
ça existe et c'est aussi un problème fondamental ici. Et en fait, effectivement, en RDC, je pense comme dans la plupart des pays, la prison, c'est un peu la cinquième roue du carrosse, quoi. C'est vraiment ce dont on s'occupe en dernier, parce que finalement les prisonniers sont des présumés repris de justice, quoi, des présumés délinquants. Alors on s'en préoccupe pas énormément et la société ne s'en préoccupe pas à tort, à mon avis. Mes prédécesseurs l'ont raconté, il y a évidemment la surpopulation, il y a les maladies, hein, on connaît ça nous aussi en Europe, hein, d'ailleurs. Ce sont des lieux où les maladies se propagent de façon terrible et les gens sont détenus dans des situations dégradantes, parfois inhumaines. C'est aussi des lieux d'inégalité forte, hein. Quand on a de l'argent ou une famille autour de soi, eh ben on s'en sort un peu mieux parce qu'on peut faire venir un tout petit peu de confort dans ces endroits-là. Moi, je regrette, on parle de la construction de nouvelles prisons, c'est évidemment nécessaire à cause de la surpopulation, mais je pense qu'il pourrait être intéressant de regarder des pays comme, par exemple, récemment, le Sénégal, qui est en train d'introduire la question du bracelet électronique, par exemple, pour les plus petits délits, pour les gens qui ont commis les plus petits des délits, afin aussi de trouver d'autres peines, en fait, que la prison à tout prix.
Merci, on va prendre une petite pause avec cette chanson au nom des droits de l'homme d'Enrico Macias et on revient tout de suite après.
Au nom des droits de l'homme, ils ont fait le don de leur personne, des pavés, des rues comme dernier rempart de leur sang. Ils ont écrit l'histoire au nom des droits de l'homme. Les idoles un jour se déboulonnent, libérer l'esclave de son champ de coton et les femmes de toute soumission. Partout la liberté affronte les forces du mal, mais rien n'est plus fragile qu'un idéal. Quand le poète écrit ce qui lui passe par le cœur, l'amour n'a plus de religion ni de couleur. Au nom des droits de l'homme, les prisons en jardin se transforme, mais si nos espoirs sont au creux de la vague, fleuriront d'autres printemps de Prague. Partout la liberté affronte les forces du mal, mais rien n'est plus fragile qu'un idéal. Quand le poète écrit ce qui lui passe par le cœur, l'amour n'a plus de religion ni de couleur. Au nom des droits de l'homme, battons-nous face à la bête immonde qui rappelle encore et de tristes mémoires les images de nuit et brouillard. Au nom des droits de l'homme, un seul cri soulève des millions.
Enrico Macias, un chanteur, musicien, auteur, compositeur et acteur français qui, à travers cette chanson, sensibilise au sujet de la promotion des droits de l'homme. On revient à l'actualité de cette semaine. À Goma, les commandants des troupes kenyanes déployées dans les cadres des États d'Afrique de l'Est proposent de privilégier les processus politiques et diplomatiques pour résoudre les problèmes de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le général-major Jeff Nyaga l'a dit lors d'un point de presse ce mercredi. Selon lui, en dehors de ses fronts politiques, devrait suivre la démonstration et le désarmement qui devrait cibler aussi bien le M23 que plus de 120 groupes armés qui écument la région. Ici à Kinshasa, les différentes communautés des provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu ont été consultées lundi dernier par les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est afin d'accompagner les processus de Nairobi et la résolution des conflits dans la partie est de la RDC. Madame Bernadette Kamango, journaliste, vous êtes membre de l'Union congolaise des femmes des médias, ICOFEM en sigle. Quelle lecture vous faites de cette approche évoquée par les commandants des troupes kenyanes déployées dans l'est de la RDC? Ils proposent de privilégier, n'est-ce pas, les processus politiques et diplomatiques pour résoudre les problèmes de l'insécurité dans cette partie du pays.
Je pense que le général-major Jeff Nyaga commandant donc de la force régionale et avant tout un Africain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous, en Afrique, nous avons une valeur, c'est l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, pour tout Africain qui est vraiment 100% Africain, on sait que c'est généralement, c'est souvent le baobab dans certains pays, où la communauté s'assoit autour de l'arbre et puis essaye de discuter sur les problèmes qui touchent la communauté. S'il y a un malade, on essaye de savoir d'où provient la maladie, s'il y a un quelconque souci. Donc c'est autour de l'arbre à palabre que, selon la coutume africaine, les gens partent discuter de leurs problèmes. Alors je pense qu'en bon Africain, dire que privilégier, disons, la diplomatie, c'est, je ne pense pas que c'est une chose que l'on devrait rejeter. Parce que vaut mieux d'abord commencer par les discussions que de passer directement par en utilisant les armes. Je veux dire quoi par là? C'est que quand les personnes parviennent encore à dialoguer entre eux, ça veut dire que quelque part, il y a quand même une solution qui peut sortir de ces dialogues. La prise d'armes, ça doit être la solution vraiment ultime et la toute dernière solution que un pays ou bien certaines forces, certains acteurs en conflit puissent recourir. Sa recommandation n'est pas totalement mauvaise, n'est pas mauvaise, et puis je vois que il n'est pas le seul justement à encourager le processus politique. J'ai suivi le président français Emmanuel Macron au sommet du G20 à Bali en Indonésie, qui lui aussi encourage le processus politique, dont celui de Nairobi, celui de Luanda, comme priorité dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Donc il soutient effectivement le déploiement de la force régionale, et je pense que s'il y a tout ce mécanisme diplomatique, comme on dit actuellement le balai diplomatique qui s'installe en RDC, je ne pense pas que ce soit vraiment une chose à rejeter. C'est vrai que les Congolais sont un peu impatients. Le peuple congolais est impatient. Il a besoin de voir que la paix est revenue dans ce pays, que tout ce qui se passe à l'est du pays puisse se terminer, que le M23, que le Rwanda qui utilise le M23 puisse être bouté dehors. Et avec toutes les informations qui tombent de ce qui se passe à la RDC, bon, la seule chose que le Congolais puisse faire à ce moment, c'est de faire un front commun derrière, justement, particulièrement son armée. Et avec le dernier appel que le chef de l'État a lancé, justement, pour que les Congolais puissent s'imprégner, puissent s'impliquer plutôt, puissent participer à leur manière dans tout ce qui se passe avec la situation sécuritaire du pays. Vous avez vu que certains jeunes ont commencé à pouvoir demander à être recrutés au sein des FARDC, tout simplement parce qu'il y a maintenant un regain nationaliste, patriotique auprès de la population congolaise. Recourir au processus politique, diplomatique et tout ça, c'est pour un premier moment, donc pour moi c'est une bonne chose, et surtout que nous sommes des Africains, nous devons nous asseoir autour de l'arbre à palabre, essayer de palabrer.
Merci.
Les armes, c'est une solution qui doit venir vraiment en tout dernier ressort, s'il n'y a plus aucun seul mot qu'on puisse se partager entre nous.
Merci. Maître Georges Kapiamba, avocat, vous êtes président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en sigle. L'offensive contre le M23 constitue la troisième option. On pourra recourir à la force seulement si les processus politiques échouent, précise les commandants des forces kenyanes. Entre-temps, les affrontements se poursuivent sur les différents fronts. Et à votre avis, comment, pendant que l'on espère obtenir une solution politique, peut-on empêcher les rebelles de gagner du terrain?
Oui, bon, nous avons suivi cette déclaration du commandant des troupes kenyanes qui sont arrivées à Goma. D'abord, nous avons constaté qu'il s'agit d'un militaire qui a parlé comme s'il était politique, ce qui viole quand même le règlement qui régit n'importe quel militaire, quelles que soient ses origines, parce que le militaire est là pour recevoir des ordres, des instructions, des politiques, et les exécuter, sauf s'il s'agit des ordres qui vont à l'encontre des lois de la République ou de son pays ou qui viseraient à faciliter la commission des crimes internationaux. Et donc, déjà sur ce point-là, de la forme, nous avons exprimé notre préoccupation de voir un chef militaire parler comme si il était politique. De deux, nous avons considéré par la suite qu'il s'agirait peut-être d'une instruction qu'ils ont reçue, mais dont le commandant des troupes kenyanes aurait dû laisser aux politiques, aux responsables politique kenyan, c'est-à-dire au président de son pays, ou bien au facilitateur, de pouvoir faire une pareille annonce. Mais puisqu'il en a parlé déjà, et que nous considérons aussi que la voie diplomatique est la voie royale à soutenir, nous pensons qu'il faut engager toutes les parties d'abord dans cette voie, parce que elle permet de prévenir plus d'atrocités, plus de dégâts sur le plan humain, sur le plan matériel, que nous risquerons d'enregistrer si on encourageait les parties au conflit à continuer avec les combats. Mais du côté, vous savez, du côté des Congolais, les gens, comme Madame l'a mentionné, sont impatients. Il faut les comprendre, ils sont frustrés depuis plus de 20 ans. Ce sont les mêmes choses qui sont en train de subir, les mêmes souffrances. Ils sont obligés tout le temps de faire des va-et-vient, quitter leur milieu, bref, de subir la loi de ces mouvements qui en réalité a été créé et entretenu par le Rwanda. Il n'y a plus de secret sur ça, et que la population ne demande que la cessation immédiate de ces hostilités et que le M23 puisse dégager de toutes les localités qu'il occupe actuellement pour permettre à chacun de rentrer et continuer avec ses activités sous la protection des forces gouvernementales.
Merci. Merci Madame Anna Sylvestre, journaliste au magazine Jeune Afrique. Vous êtes spécialiste de l'Afrique et vous avez suivi ici, hein, il y a de la part de la population, n'est-ce pas, cette volonté de voir les choses aller rapidement, que la paix puisse être rétablie, n'est-ce pas, dans la partie est du pays. Et comment, à votre avis, peut-on arriver, n'est-ce pas, à concilier cette logique exprimée par le commandant des forces kenyanes qui dit privilégier d'abord les solutions politiques, diplomatiques, et de l'autre côté, arriver, n'est-ce pas, à gérer cette opinion publique qui ne fait que, n'est-ce pas, souhaiter le rétablissement immédiat de la paix dans cette partie du pays.
Oui, vous avez raison, hein. C'est toute la complexité, hein, de la position notamment du gouvernement congolais qui doit donner des gages à cette population qui souffre fortement de la situation et qui en même temps, comme tout le monde l'a rappelé là lors de cette émission, évidemment, se doit quand même de privilégier le dialogue, la diplomatie comme solution. Et il faut rappeler que le 21, un nouveau round de dialogue entre le gouvernement et les groupes d'armées doit débuter. Donc on est quand même dans ce contexte, hein, de tentatives de dialogue, de tentatives de discussion. Mais je trouve que finalement cette déclaration du général kenyan, elle pointe les interrogations, peut-être les malentendus, voire peut-être les désaccords autour de cette force régionale entre les pays de la région et notamment d'ailleurs entre la RDC et le Kenya. En fait, depuis que cette force a été annoncée, il y a, semble-t-il, un malentendu sur ce qu'elle doit être. Elle a mis longtemps à être déployée, hein, pour des raisons de financement, mais aussi justement pour des raisons de mandat. Est-ce qu'il faut que ça soit une force offensive, comme le souhaite le gouvernement congolais, hein, le porte-parole du gouvernement l'a dit à plusieurs reprises, une force d'imposition de la paix, ou bien simplement une force d'interposition et il semble que ça, c'est ce que souhaite Nairobi. Eh bien, je pense que ce malentendu, ce désaccord, hein, je vous laisse choisir le terme, eh bien, il n'a toujours pas été tranché et ça, malgré tout, c'est un problème. Et c'est un problème que les gouvernements des États de la région doivent trancher.
Oui, et cette stratégie, selon vous, cette stratégie qui consiste pour le M23 à gagner à tout prix du terrain, peut avoir quelle finalité? Est-ce qu'il s'agit seulement de se mettre dans une position de force en vue d'éventuelles négociations avec le gouvernement congolais, ou ça signifie autre chose?
Oui, je crois que vous posez une des questions majeures hein, de ces jours-ci, en tout cas. Moi, pour être honnête, je n'ai pas la réponse, mais c'est bien la question. Est-ce que, à quelques jours de la reprise du dialogue entre le gouvernement et les groupes armés, le M23 cherche à gagner du terrain pour être dans un rapport de force un peu plus favorable pour revenir à la table des négociations? Est-ce que, finalement, tout ça... ça n'est que du rapport de force, ou bien est-ce que le M23 cherche vraiment à gagner du terrain, peut-être même à reprendre Goma comme on l'a vu il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, hein, c'est un hasard du calendrier, mais c'était le 20 novembre 2012 que le M23 a pris Goma. Eh bien, c'est une des questions majeures qui se pose aujourd'hui.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter cette nouveauté de Maître Gims et on revient après.
Maximum. Annonce-leur tous que je vais rentrer tard. J'ai mis 2 grenades dans la guitare. Bise sur le front tout comme un Rital. Tridimensionnel comme Levi. Je croise une meute de paparazzi. Je comprends bien que c'est pas le paradis. Génies sont passés par l'asile. Fait qu'abdo mais pas un radis. Les années passent, les cadavres s'enfilent. Les pas sont lourds, les poches sont remplies. Repéré au cœur de Paris. Dans un engin très très rapide. On a souffert, on a galéré. Gros câlin, c'est bien mérité. C'est pas mon cœur qui bat, tu te trompes. C'est le téléphone en train de vibrer. Des projets d'envergure de la Chine. Cheval de Troie, son talon d'Achille. T'as bien visé mais t'es pas dans le mille. Encore faut-il savoir qu'est la cible. Le jour se lève même sur les plus villes. La terre compte quelques bâtards en moins. Prêtres et hypocrites dans le coin. Ils vont s'éteindre tout seuls comme un joint. Concentre-toi la juge zozote. T'as les poumons remplis d'azote. 1000 mètres carrés juste pour le socle. Fin stratège tout comme tes mouches. Je vais démarquer depuis la maternelle, sombre dessin à l'aquarelle. Force de l'ordre voulait m'interner car je résonnais comme un Marc Aurel. Un massif d'anticipation, tu entends mais n'écoute pas le son. Salander, Falcon, Citation, puis meurt comme dans un film d'action. Paris c'est dangereux, c'est comme Gotham, je te parle pas de quelques cas contacts. Organisé comme un Buckingham ou comme les gitans de Birmingham. La population ne comprend pas puis n'écoutera plus. Un dirigeant qui redistribue les biens d'autrui en un petit combat. Bienvenue dans mon monde à moi, nombre de requins incalculables. Fais-moi signe si le contrat tu l'as. J'arrive en retard mais avec Dracula. Si je passe pour ici c'est peine perdue. Je pense qu'à ma gueule que Dieu me pardonne. Ça marche pour moi ouais les sons cartonnent. Je coule dans leurs veines à la Thumberton. Je me méfie de toi frère tu sers à rien. Je chuchote même dans un sous-marin. Je comprends le mort c'est le sumérien. Je claque pas la porte aussi serrurier. Je sors de la daronne le ventre vide. Je veux toujours mourir un vendredi. Faut de mariser plus que j'en de le dire. Intérieur jaune, Bumblebee. En plus dans le parking y'a pas de mosquée. Je me souviens de tous ceux qui se moquaient. Je suis devant la porte j'ai pas le mot clé. Donc je frappe le coup avec Damo. J'ai pas tout lu, donne-moi l'épilogue. Appelle-moi si tu vois l'équinoxe. Chamanisé, donc je peux pas pilote. Je vois les jardins suspendus de Babylone. J'ai niqué mes ongles dans le bac à sable.
Radio Okapi. Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la situation carcérale en RDC. Nous avons également analysé la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC. Participe à cette émission, Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste et membre de l'Union congolaise des femmes des médias Ecofem en sigle. Maître Georges Kapiamba, avocat, il est président de l'association pour l'accès à la justice à Kaji en sigle. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Anna Sylvestre, journaliste au magazine Jeune Afrique, elle est spécialiste de l'Afrique. Un autre fait d'actualité de cette semaine, c'est la série d'ordonnances portant nouvelles mises en place dans les entreprises publiques. En effet, le président de la République a signé une série d'ordonnances nommant les membres des conseils d'administration et de direction de plusieurs établissements publics et investissant les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle. Les noms des personnes nommées ont été lus mardi 15 novembre à la Radio-Télévision Nationale Congolaise par la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama. Les entreprises concernées sont entre autres la RTNC, l'INPP, la SACIMA, la SONA Hydroc, la CESC et l'ICCN. Madame Bernadette Camango, ces ordonnances viennent compléter celles qui ont été publiées le 10 octobre dernier et comme d'habitude, c'est la classe politique qui vient d'être servie. La plupart des personnes nommées sont politiques et du coup, certaines ONG n'ont pas hésité à dénoncer la politisation des entreprises publiques. Votre réaction par rapport à la position de ces ONG?
Bon, c'est vrai que c'est la première observation. Moi-même, j'étais en train de me dire, mais apparemment, les entreprises publiques deviennent de plus en plus politisées. Et quelque part, moi-même, personnellement, dans mes réflexions, je me disais, mais si les entreprises deviennent de plus en plus politisées, à quoi va ressembler justement le rendement de ces entreprises un peu plus tard? Mais quand on essaye un peu de mieux gratter l'affaire, on comprendra que quelque part, nous sommes à la veille de 2023, ici en RDC, 2023 qui est l'année électorale. Alors, est-ce que c'est une façon déjà de se positionner par rapport au processus électoral qui va se passer à partir de 2023? Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on ressent que le chef de l'État, quelque part, voudrait, changer d'équipe pour mettre les personnes en qui, sur lesquelles il peut compter. Hein, et je pense que, bon, quelque part, on peut lui concevoir cela. Mais quand on voit un peu la manière dont les choses se passent, on se dit, mais est-ce que vraiment chaque entreprise mérite ce changement-là de personne? On ne sait pas. La question est un peu compliquée, mais ce qui est vrai, c'est que on voit qu'il y a vraiment une détermination de pouvoir changer d'équipe dans toutes ces entreprises. Et quelque part aussi, quand on observe que parmi ces nominés, il y a 5 proches collaborateurs de son cabinet qui ont été également nommés comme mandataires publics. Et il y a également une autre remarque qui peut plus ou moins choquer, c'est quand on s'aperçoit aussi qu'il y a une des hautes autorités de l'État qui nomme aussi ses 2 filles à la fois dans des entreprises publiques, je peux dire suffisamment bien positionnées. Alors, quelque part, on se demande, mais finalement, ces nominations, on n'y comprend pas trop quelque chose. Mais quand même, on peut dire que des nominations au sein de la RTNC, qui est quand même une structure suffisamment stratégique, je salue la nomination de Sylvie Nengue, que je connais personnellement, qui, quand même, c'est une nomination qui en vaut la peine. Parce que l'opinion publique, dans ce commentaire, ils font surtout des commentaires concernant les provinces d'origine des nouveaux mandataires, d'autres font des commentaires par rapport aux parrains politiques des nouveaux mandataires. Mais moi, je pense qu'on devrait faire beaucoup plus de commentaires par rapport aux compétences qui sont en jeu au niveau de ces entreprises. Je veux bien qu'on positionne certaines personnes de manière politique, mais si ces personnes sont compétentes, alors on n'a rien à craindre. Mais si les personnes, les nouveaux mandataires ont été seulement nommés vaille que tout simplement parce qu'il y a une année électorale qui approche, là, on va encore se gratter la tête dans quelques jours en se demandant qu'est-ce qui se passe.
Merci, Maître Georges Kapiamba. Au-delà de cette nouvelle mise en place, la question fondamentale, c'est celle de la gouvernance, n'est-ce pas, de ces entreprises. On se rappelle que la réforme de 2008, pilotée par les COPIREP et qui visait à transformer ces entreprises en sociétés commerciales afin de les rendre performantes, cette réforme n'avait pas abouti. Et à votre avis, ces nouvelles nominations pourraient-elles contribuer à améliorer la gestion de ces entreprises publiques?
J'ai suivi la question, Guy. Ces nominations sont loin de contribuer à la relance de ces entreprises, au rétablissement de la bonne gouvernance et aussi de leur permettre de se relever parce que la plupart d'entre elles sont des canards boiteux. nous savons pourquoi elles se sont retrouvées dans cette situation, c'est toujours à cause de cet envahissement des politiques depuis plusieurs années. Et malheureusement, la CAGE, comme nous l'avons mentionné publiquement, nous avons critiqué et dénoncé ces nominations. C'est pas la première fois. Vous vous rappelez que déjà le 14 octobre, nous l'avions aussi fait. Nous avons envoyé plus d'une vingtaine de courriers aux plus hauts responsables politiques et administratifs de notre pays, aux parlementaires, pour attirer leur attention sur le fait que les nominations telles qu'elles sont en train de se faire au sein des entreprises, établissements publics, organismes publics, se font en violation principalement des articles 12 et 13 de la Constitution de notre pays, qui garantissent l'égalité des chances, la protection de tous les Congolais, et qu'elle contribue aussi à la violation de l'article 193 de la Constitution qui prescrit que l'administration publique doit être apolitique, neutre et impartiale et que nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes. Et que cette administration publique contient notamment tous les organismes et les services assimilés. Et donc, à partir du moment où des partis politiques, des groupements politiques au pouvoir considèrent qu'ils ont le droit de désigner des candidats à des postes de commandement dans ces entreprises et établissements publics, et que ces désignations soient entérinées par les gouvernements, mais aussi par la signature des ordonnances présidentielles, la CAGE, nous disons que c'est inacceptable, parce que à ce moment-là, qu'est-ce qu'on consacre? On consacre tout simplement le clientélisme politique au sein de ces organismes de l'État. Et on oublie ce que nous disons à la classe politique, ils oublient que cela est considéré comme l'antithèse des engagements et des discours que nous avons suivis de responsables du régime en place qui a consisté à dire qu'ils allaient combattre les antivaleurs. Et parmi les antivaleurs, il y a le clientélisme. Et quand il y a clientélisme, ça veut dire les mandataires pourront obéir aux dictats, aux gestes, aux sollicitations ou aux instructions que des chefs de leur parti et regroupement politique. Et donc, cela va encore accentuer ce que nous craignons, va accentuer la pratique de la corruption, le trafic d'influence, le détournement et surtout, comme madame l'a mentionné aussi, c'est la veille des élections et nous craignons que cela soit fait. Alors, en vue de recréer la santé financière pour les uns au préjudice des autres. Et là, il tombe automatiquement dans la violation de l'article 199 et 193 de la Constitution qui interdit le détournement des organismes publics à des fins personnelles ou partisanes. Et enfin, je termine par dire, rappeler aussi ce que la CAGE a dit, c'est que il faut que les responsables politiques retiennent, se rappellent que dans leurs engagements, ils ont dit tout haut qu'ils allaient travailler pour le changement des mentalités. Mais le changement des mentalités consiste aussi à respecter et faire respecter les lois de la République. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça débouche à quoi? Ça débouche tout simplement à la création de Congo, avec un Congo d'en haut, constitué de cette classe, de ceux qui sont nommés, qui participent à la gestion de l'État, qui captent les ressources, presque 90% des ressources générées au nom de l'État, au préjudice de ce Congo d'en bas, qui est constitué des Congolais et Congolaises qui sont délaissés pour compte. C'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes, de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont terminé leurs études, mais parce que ils auraient commis le seul péché de ne pas être membre d'un parti ou d'un groupement politique, ils ne peuvent pas accéder aux fonctions publiques dans les mêmes conditions que ceux qui appartiennent aux partis politiques. Et donc, nous, nous condamnons cela et nous dénonçons. Nous allons poursuivre notre combat pour que cela cesse. Et d'ailleurs, nous nous félicitons de constater qu'il y a 48 heures que le ministre des Finances a annoncé le recrutement d'une dizaine de hauts responsables de l'État dans la filière des finances, de la gestion des billets, et qu'il a dit que ce recrutement va se faire conformément aux règles de l'ouverture des candidatures. À tout le monde, il y aura un concours.
Merci.
Et donc, c'est ça que nous souhaiterons. Il faudrait que les principes d'égalité des chances soient respectées.
Merci.
Et nous espérons que le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement, les responsables des partis et groupements politiques vont encore nous entendre et vont prendre des dispositions pour que cela ne se répète pas à l'avenir.
Merci, Madame Anna Sylvestre. Que répondez-vous à cette opinion selon laquelle, au lieu de choisir les mandataires selon des critères politiques, il faut plutôt procéder par l'organisation des concours, et c'est seulement ceux qui auront réussi, n'est-ce pas, à ces concours, qui peuvent être nommés?
Écoutez, je pense qu'en tout cas, il serait souhaitable que les dirigeants d'entreprises publiques ou les hauts dirigeants de façon générale soient choisis en fonction de leurs compétences, de leur capacité à gérer des entreprises pour les uns, des administrations pour les autres, à bien les gérer. Et quand on parle de public, de services publics, eh bien, c'est de les gérer pour le bien de tous et non pour celui de quelques-uns. Le simple fait dans cette affaire qu'il y ait des soupçons est à mon avis un problème. Effectivement, il faut essayer d'éviter tout soupçon en la matière, puisque on entend qu'il y a une volonté de la part de la population, qu'il y ait moins de corruption, moins de favoritisme, moins de clientélisme. Donc effectivement, des concours, ça peut être une solution. Mettre en place des organes de contrôle également, tout cela, ça peut être des pistes.
Merci, on prend une petite pause en écoutant la chanson IGF de Koffi Olomidé. Et on revient après.
Peuple congolais, tous derrière l'IGF, dans sa lutte contre les détournements des fonds publics, la lutte décrétée par le président de la République, Fatshi Béton, Félix Tshisekedi.
Y'a pas richesse, nous sommes à Congo. Y'a un bon qui nous soit trésor public. N'a pas de bruit, n'a pas de bain, n'a pas de bain. Excellence, monsieur le ministre. Kaka, peuple, y'a bon monnaie la ca. Bangoni, la peine, la cabine, on va honorable. Le calamité m'a bouillé, bi. Souci à peuple, y'a la canabinote. Bino, vos armes, prédateurs. Votre bloc à la passion va congoler. Est-ce que vraiment vous voyez comme Pongi? Après tout ça, la balle de tournement. Au passé, l'État devient 200 millions. Au lobby, les impôts, ton abopito. Au utiliser, caca 20 millions. On a très voyant l'intérêt général. 180 yon soya yo.
Ma opito et ton amité.
Est-ce que vraiment vous en amité ma? Est-ce que vous en amour ya Congo? Inimi ya Congo et Zali Congolais.
C'était Antoine Agbepa Koffi Olomidé dans IGF où il parle des méfaits, des détournements, des deniers publics. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste et membre de l'Union Congolaise des Femmes des Médias, ICOFEM en sigle. Maître Georges Kapiamba, avocat, il est président de l'Association Congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, journaliste au magazine Jeune Afrique, elle est spécialiste de l'Afrique. La divergence de vue entre la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, et le ministère des Finances à travers la DGDA a également défrayé la chronique cette semaine. La FEC accuse la DGDA d'installation forcée des machines de traçabilité des droits d'assises dans les entreprises de production locale des bières, eau de table, sucre, jus, limonade et whisky. Le patronat congolais a fait cette accusation dans un communiqué de presse. Dans ce document, elle déplore que l'installation de ces machines ait bénéficié de l'appui des agents des services de renseignement. La FEC a également déploré les menaces et intimidations dont sont victimes les entreprises où cette opération s'est déroulée. Selon le patronat congolais, ces machines ne pouvaient pas être installées dès lors que les litiges qui opposent les opérateurs économiques au gouvernement sur la traçabilité des droits d'assises est pendant devant les conseils d'État et la Cour constitutionnelle. La FEC rappelle que lors de l'examen de la loi des finances 2022, l'Assemblée nationale avait recommandé au gouvernement que la prise en charge de ces systèmes soit supportée par les trésors publics et non les opérateurs économiques afin d'éviter l'augmentation des prix de ces produits sur les marchés locaux. Madame Bernadette Kamango, quelle lecture vous faites de cette guéguerre entre la FEC et le ministère des Finances à travers la DGDA?
Oui, bon, c'est vrai que la FEC, c'est vraiment la structure, si je peux dire, la structure mère qui a un œil sur ce qui se passe sur le plan économique dans le pays. Tout à l'heure, quand vous parliez là, j'étais en train de me rappeler que tout de suite, j'ai acheté une bouteille de coca à 1700 francs au lieu de 1500 francs. Alors je me suis dit, mais par rapport au sujet, donc c'est que effectivement, quand la FEC commence à déclarer ça, c'est que quelque part elle a raison parce que les prix commencent déjà à augmenter. Donc il y a déjà un impact sur les prix. C'est vrai que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette situation, mais ce que je peux dire, c'est que en principe, le rôle du gouvernement, le rôle de l'État, c'est de pouvoir aussi protéger les consommateurs. Alors, quand on commence déjà à imposer ce genre d'obligations au niveau des entrepreneurs, parce que moi-même, je suis entrepreneur, donc ce sont encore des taxes qu'on vient ajouter sur les entrepreneurs, ce n'est pas vraiment pour encourager le climat des affaires ici en RDC. Parce que quand nous voyons les produits sur lesquels ces taxes sont en train d'être demandées, ce sont quelque part des produits de première nécessité pour la population congolaise. Alors, dans quel but tout ça s'est fait? On arrive toujours, comme d'habitude, pas à très bien comprendre l'imbroglio, mais tout ce qu'on peut comprendre, c'est que les premières victimes, ça sera encore la population congolaise, qui seront encore victimes de l'augmentation des prix, et on connaît le pouvoir d'achat de la population congolaise qui est déjà suffisamment faible. Et surtout que si ça se passe à la veille des fêtes de fin d'année, alors que cette semaine, j'ai appris qu'il semblerait que les prix, les denrées, des surgelés auraient baissé de prix. À côté, il y a majoritairement les boissons qui veulent prendre de l'ascenseur. Bon, il y a encore une fois à boire, à manger dans toutes ces histoires. On comprend pas très bien ce qui se passe, qui cherche quoi, qui veut quoi, pourquoi. Donc c'est encore 10 000 questions qu'on peut se poser autour de la tête.
Merci Maître Georges Kapiamba. Nous avons assisté récemment à un autre bras de fer entre la FEC et le gouvernement à travers cette fois-là le ministère de l'économie au sujet de ce que l'on a appelé les justes prix. Et on sait ce que cela a eu comme conséquence, n'est-ce pas, sur le prix des denrées alimentaires telles que les produits surgelés. Est-ce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, redouter le même scénario dans ces bras de fer qui opposent actuellement la FEC et le ministère des Finances à travers la DGDA au sujet des boissons? Madame Bernadette Kamango l'a relevé, hein, il y a maintenant les prix qui commencent à augmenter pour certaines boissons. Est-ce qu'on ne peut pas redouter le même scénario comme ce qu'on a vécu il y a quelques mois au sujet des produits surgelés?
Oui, je voudrais d'abord rappeler que la République démocratique du Congo s'est dotée depuis le 13 mars 2018 d'une loi appelée Code des Assises, et que cette loi porte le numéro 18-13002, et que cette loi a déjà prévu les champs d'application en ce qui concerne les droits d'assises qui s'étend jusqu'aux boissons, comme madame venait de les mentionner, et que si l'administration douanière a pensé qu'il était arrivé le moment où il fallait mettre en application, prendre des dispositions nécessaires pour mettre en application cette loi, moi je pense qu'il ne peut pas y avoir vraiment de problème si cette démarche a été...
Allô, M. Kapiamba, apparemment nous l'avons perdu, la réalisation va essayer de les rappeler. Madame Anna Silvestre, il y a toujours des conflits, n'est-ce pas, dans les rapports entre les patronats et les gouvernements, dans tous les pays à travers le monde. Et quand cela n'est pas bien géré, c'est les petits consommateurs qui en subissent les conséquences. Vous avez entendu ce que Madame Bernadette Kamango a dit. Et comment peut-on, à votre avis, procéder pour garantir à la fois les intérêts aussi bien du gouvernement que des opérateurs économiques, de manière à ce que les pouvoirs d'achat de la population ne soient pas affectés?
Effectivement, hein, comme Madame l'a tout à fait dit, ce qu'on peut déplorer, c'est que au final, ça sera le consommateur qui trinquera dans un contexte où déjà les prix, et notamment les prix des produits de première nécessité, ont tendance à augmenter. Évidemment, un gouvernement et des entreprises privées n'ont pas les mêmes intérêts. Hein. Elles ont parfois même des intérêts contraires et divergents. A priori, il n'y a pas d'autre solution, à mon avis, que celle du dialogue. C'est-à-dire, même si parfois ça prend du temps, même si parfois, oui, c'est complexe et c'est laborieux, eh bien, la meilleure solution pour le consommateur, c'est que le patronat et le gouvernement parviennent à discuter, et le gouvernement a malgré tout des leviers pour tenter de convaincre, de contraindre les entreprises.
Et comment ce genre de questions, quand ils se posent dans les pays occidentaux, comment les gouvernements arrivent à résoudre ces problèmes-là?
Écoutez, c'est des questions qui se posent, je crois, de la même façon ici en France. Il y a peu, il y a eu un des gros soucis par rapport à l'essence, qui a beaucoup touché les transporteurs, la population, les gens qui avaient besoin de prendre leur véhicule pour aller au travail. Sauf que ici en France, c'était vraiment dû à un manque de concertation entre le gouvernement et les grandes entreprises pétrolières, et donc il y a eu d'importantes grèves, et le pays a été quasiment paralysé, en fait, hein. En une poignée de jours, tout a été paralysé par manque de concertation, par manque d'anticipation aussi du gouvernement, et au final c'est la population qui trinque ou qui grince des dents.
Merci, la réalisation me signale que Maître Georges Kapiamba est là. Maître Georges, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Vous étiez en train de parler des conséquences qui peuvent découler d'une telle guerre.
Voilà, je disais qu'il ne doit pas y avoir de guerre entre l'administration douanière et la FEC, c'est-à-dire la Fédération des entreprises du Congo, qui est en réalité aussi dans son droit de vouloir défendre les intérêts de ses membres. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà dans notre pays des produits qui sont notamment sur lesquels la même administration perçoit aussi les droits d'assises, notamment les cigarettes. Vous savez que quand vous prenez les paquets de cigarettes, ils sont estampillés de vignettes qui sont en réalité le fait de l'administration douanière. Et donc, il y a tout un tas de mécanismes comme ça que cette administration pourrait prendre pour donner effet à cette loi. Mais ce que nous pouvons peut-être recommander aux uns aux autres, c'est de trouver autour d'une table, discuter, trouver des solutions pouvant leur permettre de mettre en application la dite loi sans que ça puisse provoquer beaucoup de dégâts et surtout prévenir que sa mise en application ne puisse pas avoir des répercussions négatives sur les prix des produits de première nécessité.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Madame Bernadette Kamango, Maître Georges Kapiamba et Madame Anna Silvestre d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et Christian Lomombe DJ Daddy sous la supervision d'Alex Essomé. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec One Love de Bob Marley et on se retrouve le samedi prochain.
Chances grow.